Donc, alors on va parler de quoi ce soir? On va parler des mots, on va parler de leur sens, on va pouvoir en discuter. Alors on va prendre quelques petites précautions avant, par rapport au fait que je ne suis pas professeur, je ne suis pas maître de conférence, je n'ai aucun titre symbolique. Il me confère le droit de parler comme un philosophe, un linguiste, ou que sais-je encore, d'ailleurs, ni même politique. Donc je vais parler en tant que moi. Et à ce titre, je vais vous donner petite idée, parce que on m'a beaucoup parlé. On m'a beaucoup parlé dans ma vie, en fait. Des gens qui étaient timides. Et j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de gens qui confondaient la timidité et l'humilité. Donc, c'est pas du tout la même chose. Ça n'a absolument rien à voir. La timidité est souvent à la jeunesse, à des choses qui sont passées, qui sont produites et qui ont provoqué des sortes de blocages, on va dire. Enfin, ouais, on peut appeler ça comme ça, quoi, des blocages. Donc la timidité, en gros, c'est un manque d'audace, de vigueur. Ça bloque la pensée. Et l'antonyme, c'est la hardiesse, l'audace et la témérité. Alors, antonyme, c'est, on dirait, à l'opposé. Voilà. Pour faire simple. Donc, pour ce qui est de la timidité, on peut faire quelque chose. C'est pas un problème. Faut juste savoir, en fait, que, ben, on est timide. Et ça pose pas de problème. Ça se fait assez simplement. Pour l'humilité, c'est un peu plus compliqué, par contre. Parce que l'humilité, ça s'acquiert au fil du temps. Ça se fait pas du tout comme ça. C'est assez compliqué à gérer. Il faut avoir bien compris qu'en fin de compte, ben, on parle avec ce qu'on a dans nos poches, je dirais. C'est-à-dire que c'est avec toute l'expérience, et tout ce recul, tout ce qui nous est arrivé, en fin de compte, que on va pouvoir acquérir de l'humilité. C'est pour ça que les enfants sont souvent arrogants, bien sûr. Parce qu'ils n'ont pas ce recul-là. Donc ils pensent être absolument sûrs et certains de savoir, ce qu'ils disent. Le problème, c'est qu'on sait que, ben, quand on est gamin, on pense savoir, on croit savoir, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est que le savoir. Et pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour faire la différence, si vous demandez à votre copine ou à votre copain devant le restaurant, je pense que je peux te payer le restaurant, je crois que je peux te payer le restaurant, ou est-ce que je sais que je peux te payer le restaurant, je dirais a priori que, à part les 5% des cas où pour eux ils feront pas la différence, et quelques-uns qui seraient en basket et qui sont assurément bons à la course, hein, ils rentreront pas avec vous dans les deux premiers cas. Parce que je crois, je pense et je sais, ça ne se vaut pas. Aujourd'hui, vous pourrez remarquer que dans les médias, autour de vous même, et même chez vous, il y a beaucoup de gens qui pensent. C'est pas mauvais la pensée, mais ça se manipule pas comme le savoir penser. Vous le savez bien, il faut vérifier ses sources. C'est un gros boulot, mais faut le faire. Sinon, ben en fait, on croit au titre du croyant, hein, qui croit qu'il n'a pas besoin de preuves en fait. Hein. C'est juste qu'il croit. Donc ça, C'est pour bien qu'on fasse la différence là-dessus. Tout ne se vaut pas. D'accord? Donc maintenant, je vais avoir des petites interruptions dans mes propos parce que j'ai des petits trucs à envoyer, suivre. Mes propos. Et donc, du coup, comme je parlais aussi expérimenté certains, nécessite deux, trois minutes. Donc, du coup, ma méthode, c'est, je vais vous la décrire. Donc, en principe, pour moi, hein, je parle que pour moi, on a l'essence en premier. L'essence, c'est un petit peu chez les Grecs ou plus précisément chez Hésiode, les muses. C'est ce qui nous inspire. C'est ce qui, nos perceptions, nos sensations, ce qui nous fait être des personnes sensibles. D'accord? Après, on a un autre système qui se met en place, c'est les idées. Alors, c'est les idées, c'est très compliqué en fin de compte quand je me suis attaqué à ça, c'est que dans les définitions, vous repérez facilement que c'est vraiment bien intriqué. C'est vraiment bien bien intriqué. Il y a des choses, ça fait un peu comme de la tautologie. Et ça s'appelle en fin de compte les uns les autres. Mais bon, pour moi, je placerais ça dans ces ordres-là, quoi. Donc, on aura donc les sens qui vont nous provoquer des idées. Et puis, ces idées, on va en produire donc une pensée qui va être en fait le traitement. Ah, il me fait tout en double, c'est marrant ça.
Désolé.
Ouais, si tu peux les effacer au fur et à mesure, les doublons, ça évitera qu'il y ait du double.
Ok.
C'est bizarre d'ailleurs qu'ils fassent du double comme ça.
Bah, si
Enfin.
tu l'as encore tourné chez toi, enfin, je sais pas. Pas grave, on continue.
Ah, tu crois que tu peux l'arrêter direct, le mien?
Ouais, vas-y.
Ah, ben, c'est ça. Ok. Du coup, ah oui, on n'avait pas fait de test. Donc du coup, voilà, on articule. Moi j'articulerais ça comme ça. Donc on a les sens, les sensations, les intuitions, tout ce qu'on veut, qui vont nous produire des idées. Puis ces idées, ben, en fait, elles vont nous pousser à réfléchir. Et ça, c'est pas mauvais, la réflexion. Il va falloir produire quelque chose d'autre chose derrière. Ça va être donc l'imagination. C'est-à-dire qu'il va falloir mettre en image ces idées une fois qu'on aura produit d'elles une pensée, une bonne réflexion. On aura mis vraiment. Ah, il n'est pas sorti. Et donc, du coup, partant de cette articulation, on va commencer à travailler proprement. Donc, on va reprendre, par exemple, en premier cas, vous faire une petite, vous faire sentir le truc. Va essayer de penser à un point. D'accord? Donc, quand on pense à un point, si vous regardez la définition du point, vous allez vous rendre compte qu'un point, selon Euclide, c'est sans dimension. Et par contre, directement, quand on lui confère autre chose que ce qu'il a en propre, c'est-à-dire une surface, on va l'imaginer, quand on va le mettre en image dans notre esprit, on va lui conférer ce qu'il n'a pas. On va lui associer une surface. Mais pire, quand on demande après de faire un segment de droite ou une droite avec des points qui n'ont pas de dimension en propre, on se rend compte que là, au niveau des définitions de ces mots-là, y a quelque chose qui ne va pas. On peut le penser, mais à l'imaginer, ça ne va pas marcher. On va rajouter de l'information. Et ça, c'est à cause de l'abstraction. L'abstraction qui nous permet, en fin de compte, de créer des objets ou d'imaginer des objets et de transporter ces informations d'une personne à une autre ou d'un coin à un autre. Alors, pour vous faire le truc simplement, c'est que, par exemple, si j'avais un tabouret, vous étiez menuisier, si je vous ai filé le tabouret en propre comme ça, vous n'auriez aucun mal à me le refaire. Ça poserait pas de problème. Maintenant, j'ai plus le tabouret, mais j'ai la photo du tabouret, et avec un rapport, par exemple, les archéologues prennent un décimètre ou une mesure comme ça, ou par exemple, si vous avez rien d'autre, un paquet de clopes, vous ramenez ça à un ébéniste, il aura aucun problème à vous reproduire à peu près le même tabouret. Hein. Il va pas y aller au micron près, mais il vous fera le même tabouret. Donc vous avez, il a pas eu l'objet dans les mains, il sera quand même capable de vous produire le tabouret. Troisième abstraction, c'est vous avez pas le tabouret, vous avez pas de photo avec d'objets pour faire de rapport de dimension, et vous avez la mathématique. Et la mathématique, c'est fantastique parce que si vous lui donnez les mesures et la nature du bois, donc ses qualités, et ben là encore, il aura aucun problème à vous produire cet objet qu'il a jamais vu et qu'il a jamais touché. Donc ça, c'est la puissance de l'abstraction. C'est vraiment phénoménal. Il faut pas se tromper non plus. Dans ce process-là, on rajoute ou on enlève de l'information. C'est-à-dire qu'elle n'est pas exacte. Comme, pas un support hyper fiable. Il faut pas oublier ce qu'on a perdu ou ce qu'on a rajouté. Comme par exemple pour le point, une fois qu'on sait qu'on a rajouté quelque chose, il faut pas l'oublier. Sinon, on peut se tromper à diverses étapes. Pas franchement dans le raisonnement, mais justement dans la mise en image de son raisonnement qui était propre au départ. Un point, c'est sans dimension. Faire une ligne avec un point sans dimension, voilà, va falloir m'expliquer. Ça va pas être simple. Du coup, on en arrive en fait au questionnement des mots, justement. Parce que ces mots-là, surtout pour la mathématique, la géométrie, ils sont faits par des linguistes, des philosophes, et pas nécessairement par des mathématiciens ou des géomètres. Et donc, ils doivent avoir des biais, je pense, à leur niveau, qui fait que, ben, ou ils comprennent pas ce qu'ils disent, ou ils comprennent pas ce qu'ils font. Mais à l'évidence, tout ne fonctionne pas comme ils devraient. Déjà, s'il y a des choses qui vous choquent déjà à ce niveau-là, eh ben vous pouvez me poser des questions et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, je suis désolé si je n'ai pas été super clair dès le départ, mais voilà, il y a un petit truc technique qu'il fallait mettre en place et ce n'est pas simple. Donc, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que tu en as dans le chat?
Pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat. Si quelqu'un veut prendre la parole, qu'il n'hésite pas. Ou s'il pose une question à l'écrit, on la lira. Non, écoute, je crois que pour l'instant, ça t'écoutait religieusement.
Moi, j'ai repéré quand même que... on avait des mots qui étaient très bien définis à une époque. Et puis aujourd'hui, on se rend compte que, en fait, entre le grec, le latin, le français et même l'anglais, on se retrouve avec des mots qui sont complètement tronqués, voire même inversés. C'est assez perturbant. Il y a des exemples qui nous laissaient quand même pas mal en recul. Je vais vous en donner quelques-uns. Je vais vous en donner quelques-uns. Déjà, on va partir de là, on va partir de chez les Grecs, parce qu'on parle une langue qui est quand même vraiment essentiellement grecque et latine. On ne s'en rend pas compte, sauf quand vous avez fait des études de médecine ou de maths, là, ça paraît plus évident. Mais pour la plupart du temps, en fait, on ne se rend pas compte que notre langue est vraiment, elle est vraiment empreinte de grec et de latin. Quand on prend, je sais pas, donc atome, hein, c'est indivisible. Le A est privatif en grec. Pareil que aphone, c'est privé de son. On est bien d'accord. D'ailleurs, il suffit de se souvenir de l'histoire de Perséphone pour savoir que des enfers, enfin plus exactement du Tartare, il était difficile à sa mère de l'entendre. Et c'est pour ça que les saisons étaient là. Si vous lisez Hésiode, c'est magnifique. C'est franchement, c'est vraiment superbement écrit. C'est une œuvre qui s'est faite sur je sais pas combien de milliers d'années, parce que Hésiode, il a écrit ça du temps, enfin il a écrit ça, il a rien écrit d'ailleurs, puisque c'était des aèdes, donc des poètes, et ça a été repris, repris, repris jusqu'à un jour où ça a été mis par écrit par des doxographes. Et donc ce type-là est parti d'un truc très fort, il a fait la cosmogonie d'un côté, et en parallèle il a fait la théogonie. Donc la cosmogonie, c'est donc le cosmos et sa mise en place, son évolution. Et la théogonie, en fin de compte, c'est les dieux qui arrivent là-dedans, en fin de compte, et il fait ça en parallèle, il passe de l'un à l'autre. Et ça, faut vraiment le lire parce que c'est absolument superbe. Bien sûr, c'est un mythe. Enfin, au XIIe siècle, le petit garçon qui était dans les champs avec sa fourche, quand l'Inquisition, elle arrivait, il disait, oui, vos femmes sortent le soir pour aller faire des œuvres à Satan, il les croyait aussi. C'est un mythe. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons comme mythe? Ben, ça sera à nous de le définir. Mais à chaque époque, il y a un mythe. À chaque fois, ça revient tout le temps pour endormir les gens. C'est magnifique. Et les langues, là-dedans, elles véhiculent ces mythes. Ces mots véhiculent ces trucs. Alors, ils sont vraiment transformés. Ce qui est assez rigolo, c'est que le A privatif, en latin, ça passe en D, comme désassemblé. Ouais, c'est l'action contraire, l'inverse de l'assemblage. Ouais. Et c'est assez rigolo de voir ça, parce qu'ils auraient pu garder les racines directement. Mais en fait, non. Ils ont fait autre chose. Ils ont carrément tout modifié. Alors du coup, moi, je suis en train de partir sur des trucs que j'avais pas prévus, parce que j'ai pas tout sous les yeux.
Alors, au TNRP, si tu veux, il y avait une question d'Olifax. Tu parlais d'une période où les langues étaient simples, mais quand était cette période?
Alors en fait, nous on lit ça assez facilement parce que en gros on prend entre 2500 2700 années de grec dans nos bouquins ou à peu près pareil. Nous on les prend en plein. Mais eux, ça a mis quand même 2700 ans à se faire. Si vous voulez, le mot encyclopédia, encyclopédie, il n'est pas né de n'importe quoi. Ils ont fait le tour de la Méditerranée. Quand ils ont fait le tour de la Méditerranée, ça a mis 500 ans à revenir les bouquins de l'autre côté, chargés de Mésopotamiens, d'Égyptiens et d'Indiens. Et donc du coup, il y a un moment où eux sont arrivés avec quantité de mots de langues différentes qu'il a fallu donc déjà traduire dans leur langue à eux, qu'il a fallu expliquer, parce qu'il y en a qui ne connaissaient pas, comme le zéro par exemple. Le zéro, eux, ne l'avaient pas, les Grecs. Ce qui s'est passé, c'est que ils ont été obligés de le mettre en place. Alors nous, c'est marrant, parce que nous, on pense que le zéro est arabe. Et en fait, quand vous allez là-bas, eux, ils vous disent, mais non, ça vient d'Inde. Donc, vous voyez, effectivement, il y a plein de choses sur lesquelles on se trompe. Par exemple, beaucoup de gens pensent que l'algorithmie, c'est grec, machin, tout ça, c'est des mathématiques. Non, pas du tout. C'est un hindou, c'est algorithmie. Donc, voyez, et d'ailleurs, il n'y a pas le Y. Donc, on pourrait le voir par rapport à ça. Maintenant, nous, on prend ça vraiment en mode, on a ce qu'ils ont écrit, en fait. Enfin, les fragments qui nous restent déjà, surtout au niveau philosophique. Mais les mathématiques, on les a en plein quand même. Je veux dire, on a Thalès, on a tous ces systèmes-là qui ont été mis en place, tous ces mathématiciens-là, là. D'ailleurs, qui n'étaient pas que mathématiciens ou géomètres ou physiciens. D'ailleurs, physique, ça vient de physis, ça vient de la nature. Donc, en fait, c'était plus des naturologues que des physiciens au sens actuel du terme. Donc, et en fait, on interprète avec nos mots à nous d'aujourd'hui ce qu'ils auraient pu être, eux, à leur époque. Et on se trompe grandement. Je vous glisserai dans le, vers la fin de la conférence des cours d'un professeur dont je me souviens plus du nom là tout de suite, mais qui est prof de prof et qui explique ça divinement bien. Je ne le ferai jamais aussi bien que lui. Donc ça sera pour vous sourcer. C'est vraiment excellent à écouter. Il va vous faire ce que c'est que la démocratie chez les Athéniens. Il va vous faire la démocratie comment on appelle ça? Les yeux. Enfin, lui, c'est un prof, il vous ferait ça parfaitement, il n'y a aucun souci. Maintenant, il y a quand même des choses qui vont pêcher dans le fait de nos jours, on va tronquer quand même pas mal de choses dans leurs mots à eux. Il y a quand même pas mal de choses qui vont partir à la trappe. Je suis en train de galérer dans les... Dans les... Et là, hop, hop. Donc, du coup, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec des mots qui perdent de leur sens. On se retrouve avec des mots comme démocratie, justement, où en fait, on appelle de nos voeux la démocratie, mais elle a priori jamais existé, cette démocratie. Puisque le pouvoir du peuple chez les Athéniens s'était réparti en trois parts, les prélats, il y avait la part après avec les gens du peuple. D'ailleurs, fallait être citoyen, donc fallait posséder des terres déjà. C'est pas n'importe quel non plus citoyen qui avait ça. Ils votaient au caillou. Donc à l'époque d'Athènes où elle est dite démocratique, ils ont jamais fait autant la guerre que pendant cette période-là. Donc c'était pas une période calme, leur démocratie. En plus, bon, si vous lisez un peu Platon, vous vous rendez bien compte que pour avoir fait les règles de la cité, il y avait quand même pas mal de choses qui n'allaient pas, et il s'en était bien rendu compte. Donc du coup, ça lui a amené pas mal de problèmes d'ailleurs. Parce que quand il fait, on parle de la République, quand il fait la République 2, c'est-à-dire la critique de la République, les règles qu'il a mis en place, il se rend bien compte que quand on donne du pouvoir à des gens qui aiment le pouvoir, bah, ils utilisent ce pouvoir. De la même manière que quand on donne des armes à des gens qui aiment les armes, bah, ils utilisent ces armes. Et à son époque, quand on donne des enfants à des gens qui aiment les enfants, eh ben, ils abusent des enfants. Donc, et il se dit, de là, il dit, bah, en fait, on ne devrait pas faire ça. On devrait priver de pouvoir les gens qui veulent du pouvoir, priver d'argent les gens qui veulent de l'argent. Et ça apaiserait quand même bien le monde. En fait, il était sur une idée qui était celle qui était prônée par les épicuriens, qui était le pas plus que nécessaire, et d'ailleurs pas que Épicure, puisque le pas plus que nécessaire est déjà dans la théogonie d'Hésiode. Si vous allez aujourd'hui à Delphes, sur le temple dédié à Apollon, c'est encore gravé dans l'art. D'un côté, c'est marqué pas plus que nécessaire, et de l'autre côté, c'est connais-toi toi-même. Donc, c'est-à-dire, sache quand même où est ta place. ne déborde pas non plus. Ne te prends pas pour ce que t'es pas. Donc évite l'arrogance. Donc pour aller vite comme ça, ils se sont retrouvés, eux, avec quantité de données pendant un temps long. Et ils ont fait un boulot vraiment, moi je dis formidable. Franchement formidable. Et à ce point formidable que vous remarquerez franchement que les Latins, quand ils sont arrivés là-dedans, quand ils ont récupéré leurs mots et tout le reste, c'est pareil, ça s'est pas fait en un jour. C'est pas, il y avait le grec, puis après il y a eu le latin. Ça fait comme ça. D'ailleurs, il y a énormément de mots qui sont intégrés dans leur langue. Mais vous pourrez remarquer sur certains mots que quand même, ils les ont bien arrangés à leur manière. Ils les ont bien... Vous voyez, par exemple, si vous prenez le mot salaire, regarde, qui envoie le salaire. Si vous prenez le mot salaire, donc en fait, c'est ce qui nous donne le mot, ça vient de sel, en fait. Chez les Romains, c'était la solde aussi. La solde, elle était bonne celle-là, la solde du guerrier. Si vous prenez le mot travail, bah, le mot travail, il est magnifique. Tripalium, tribalium, c'est en fait trois poteaux sur lesquels, en fin de compte, on attachait les bêtes au départ pour pouvoir ou les tondre ou les soigner. Mais bon, de temps en temps, on accrochait aussi un esclave. Puis bon, on avait marre de jouer avec, on y mettait le feu. Donc c'était un instrument de torture. Et alors, c'est magnifique s'il est dedans. Et c'est magnifique de retrouver ça aujourd'hui pour parler. On aurait pu trouver d'autres mots. Hein. On aurait pu œuvrer. Œuvrer, c'est quand même mieux que d'aller travailler. Si vous mettez torturer à la place de travailler à chaque fois que vous dites le mot travailler, vous allez vous rendre compte que c'est pas n'importe quoi le travail. D'ailleurs, là encore, les philosophes étaient passés par là, c'est que pourquoi travailler? Pourquoi en fait se torturer? C'est à cause du pas plus que nécessaire. Parce que si vous avez ce qui vous suffit, ça va, vous êtes bien, il n'y a pas de souci. Par contre, si vous voulez plus que nécessaire, eh ben vous devrez vous torturer. Et donc là, vous devrez donc vraiment travailler. Donc en fait, eux avaient bien placé le mot, l'avaient bien équilibré. C'est peut-être sur le mien de PC. Je sais pas. Donc du coup, on cherche les mots.
Non, je l'ai en photo. Tous les deux sur la même page.
Ah bon, on se retrouve avec des mots comme ça. On se retrouve avec des mots comme ça qui sont assez qui avaient du sens au départ et dont nous aujourd'hui on a perdu la mémoire. Honnêtement, vous demandez aux gens ce que c'est que le travail pour eux, c'est affolant de leur répondre. C'est vraiment affolant.
Il y a une question, tiens, qui va dans le sens de propos. Il y a une question de Mistake qui dit est-ce que les mots perdent leur sens ou est-ce que leur sens est adapté par les usages au contexte présent?
Alors, on les réadapte, on les réinterprète. On les réinterprète. Alors, tantôt, il y en a qui sont insérés. On fabrique des nouveaux mots. Si on prend le mot d'emoji, tiens, c'est un nouvel objet. Là, on va créer un mot. Il n'y a pas de souci. Par contre, il y a des mots ouais, qui vont être complètement dévoyés. Quand vous prenez le mot réinventer, alors, on sait ce que c'est qu'inventer. Inventer, c'est créer une invention, c'est une œuvre en soi, c'est un premier objet, un premier concept, c'est une invention, ça ne se produit qu'une fois. Comment vous voulez réinventer une chose? Alors qu'on avait un mot qui est, par exemple, réadapté, ou transformer ou modifier. Non, il a fallu qu'on insère un nouveau mot, réinventer. Et celui-ci, pour le coup, n'a pas de sens en vrai.
Comment on peut réinventer la roue?
On peut la modifier, l'adapter, ouais. Mais la réinventer, c'est abusif comme mot. Donc ouais, Tout à fait. Il y a des mots qui sont complètement, déjà qui ne devraient pas faire partie de ce dictionnaire. Alors, il faut savoir aussi pourquoi on insère les mots dans le dictionnaire. Alors, on vire des mots du dictionnaire parce que, par exemple, on ne les emploie plus. Donc, si vous regardez, il y a quelques, peut-être une vingtaine d'années de ça, il y avait un très joli mot qui était gourgandine. Et gourgandine, ils l'ont viré du dictionnaire parce qu'il n'était plus utilisé. Sauf que gourgandine, en fait, c'était, on va dire, un peu en termes modernes, une allumeuse. Voilà. Et aujourd'hui, vous allez voir que dans le dictionnaire, vous allez retrouver allumeuse. Donc, virer un joli mot parce qu'il n'est pas utilisé et le remplacer par un autre mot qui, lui, est utilisé, mais il est plus dégradant. Il y avait au moins encore un petit peu de beauté dans les mots anciens. Il y avait, on a trouvé dans le patois bourguignon la chourette. La chourette, en fait, c'était un nom qu'on donnait, un sobriquet qu'on donnait aux jolies femmes. Voilà. Et ça, en fait, c'était lié à une sorte de truc qu'elles se mettaient dans les cheveux, qu'elles s'attachaient avec. Tous ces mots-là, en fait, qui sont peu utilisés, ouais, au fur et à mesure, ils sont escampés du dictionnaire. Par contre, qu'est-ce qu'on va faire avec les nouveaux mots qui arrivent là? Parce que si vous écoutez autour de vous les mots qui sont utilisés, il y en a, ils font un peu saigner les tympans quand même. Quand vous entendez, par exemple, tiens, je te laisse gérer les grands et puis je passerai ramasser les petits ce soir, vous vous demandez quand même s'ils parlent des poubelles ou des gamins là. Et puis à un moment, est-ce qu'on gère des enfants ou est-ce qu'on les élève, est-ce qu'on les éduque? Est-ce qu'on les ramasse ou est-ce qu'on va les chercher? Y a quand même des façons de parler qui sont franchement, c'est limite quand même. On ne peut pas dire que ça soit très joli, quoi. Gérer, c'est quand même un langage technique. C'est pas un langage, c'est pas un langage humain. Et vous regarderez que de plus en plus, le langage humain, il est escampé au détriment du langage technique. Et d'ailleurs, je parlais il n'y a pas longtemps avec un collègue sur, justement sur l'after, et on parlait des normes. Et les normes, je disais, les normes, quand même, c'est pas un joli mot, c'est des fourchettes de l'acceptable, de ce qui était normal avant, peut-être plus normal aujourd'hui. Les normes sont reliées à la morale, quand même. Et lui m'enclenche sur un truc technique, mais on a besoin des normes pour certaines qualités de pas de vis, de trucs comme ça. Et je lui dis oui, mais quand on parle des normes sociales, on parle des normes aussi. Mais on dit plus les normes sociales, on dit juste les normes. Et la normalisation de la société, vous voyez, c'est plus les normes sociales, c'est la société qui doit être normalisée. Donc, ça devient compliqué en fait à partir de là. Vous vous retrouvez aujourd'hui avec un langage qui est vraiment managérial. On va implémenter des nouvelles pratiques. Vous allez avoir des modes opératoires. Enfin, vous avez vraiment, nous subissons aujourd'hui un langage qui est vraiment entre le managérial et la technique, qui est vraiment déshumanisant. Ça, enfin, vous l'avez tous senti. Je pense que là, je fatigue personne en disant ça. Là, on est tous au courant que la novlangue est sur le marché. D'ailleurs, à ce titre, c'est assez rigolo, novlangue. Pourquoi avoir pris ce truc-là? C'est pas une nouvelle langue. C'est juste une langue qu'on essaye d'insérer vraiment dans le quotidien des gens. Alors, avec les ordinateurs, l'arrivée des technologies comme ça, quand on vous propose, comme à moi la dernière fois, où on me demande sur le quai d'une gare pour satisfaire un questionnaire, est-ce que, alors monsieur ou madame, je dis transgenre, ça rentre, il me dit, ben non, j'ai pas ça. Je dis, ouais, on fait comment alors? Il me dit, ouais, monsieur, je dis, ouais, bien sûr, je suis monsieur. Et si j'avais été transgenre, je rentre pas dans les cases. Ben non. Donc voilà. Et en fait, ça produit une société d'exclusion, ça. Donc les mots, il faut y faire attention quand même. Les mots véhiculent des idées quand même. Et c'est pas rien. Le pouvoir de l'homme, c'est de nommer les choses. Si vous pouvez pas dire, tiens, regarde, ceci, c'est un tabouret. Hein, on va l'appeler comme ça. C'est objectif, hein, de lui donner le mot tabouret, hein, la chaise, ou le bois, ou truc machin, hein, c'est pas le problème. Une fois qu'on est d'accord, qu'il est convenu de l'appeler comme ça, c'est pratique, parce que je peux vous dire, tiens, regarde, assieds-toi sur le tabouret. Donc c'est un grand pouvoir. Et quand vous avez associé à ce pouvoir-là un politiquement correct qui se met en place, ben, vous n'avez plus le droit de mettre, par exemple, à côté de ministre, escroc. Parce qu'à la télévision, ça, ils vont dire, ah non, ça, c'est pas politiquement correct. Vous pouvez plus nommer les choses par leur réalité. Hein? Parce que, ah bah, parce que c'est pas politiquement correct. Alors, la politique, la police, ça a la même racine. Hein? C'est cité en grec. Alors, ça vient pas de n'importe où. Parce que, les Grecs, eux, cherchaient la vie bonne. Et pour accéder à la vie bonne, ils avaient compris qu'il fallait que les lois de leur cité soient justes. Parce que si les lois de la cité sont justes, à l'intérieur, la vie est bonne, mais sinon, elle n'est pas bonne. Donc, et c'est pour ça qu'ils ont mis en place la démocratie. C'était pour pouvoir voter leurs lois, puisque c'est eux qui les supportaient. Et donc, ils voulaient supporter des lois qu'ils étaient capables de supporter. Aujourd'hui, si vous regardez comme la manière dont sont fabriquées les lois ou proposées les lois, déjà les gens qui vous les proposent ne les subissent pas. Par contre, c'est pas vous qui les proposez, mais c'est vous qui les subissez quand même. Donc, on est quand même aux antipodes. Donc, appeler ça de la démocratie, c'est comme dire que le noir et le blanc, c'est la même. C'est pareil. Il n'y a pas de différence. C'est des couleurs. Oui, c'est des couleurs, mais pas franchement la même. D'ailleurs, certains diront non, c'est pas des couleurs, c'est des spectres. D'autres, pas dit ce que c'est, mais ouais. Donc le pouvoir de nommer les choses, il est énorme. Et c'est celui de l'homme. D'ailleurs, la phrase est bien connue, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. D'ailleurs, j'ai trouvé une autre citation de Jacques Attali sur les mêmes mots, c'est pas audible. Franchement, je vous le mettrai pas. Si, si, ils vont, si, si. Donc, est-ce que vous avez autre chose sur la question des mots? Olifax, je pense que je t'ai envoyé à un moment un truc sur lequel je suis tombé par rapport justement à une question que j'avais posée. C'était est-ce que ayant un 200 mètres carrés que je chauffe à 25 degrés avec un BMW dans le garage et un steak de 400 grammes dans l'assiette, est-ce que j'ai le droit de me dire épicurien? Parce que c'est ce qu'on entend. Le mec, il est au resto, nickel et tout, et il se dit épicurien avec un truc monstrueux dans l'assiette. Alors qu'il n'en a pas besoin, là, il est au-delà du nécessaire. Alors, il avait dit oui, effectivement, non, celui-ci peut pas se dire épicurien, mais Épicure ne traitait pas des valeurs financières, monétaires et tout. Et il se trouve quand même que si, un petit peu. Que si, un petit peu. Sauf que c'est un petit peu, il l'a un petit peu justement fait de cette manière-là, c'est-à-dire sans s'arrêter vraiment, parce que eux, ils pensaient bien plus fort que ça. Donc ils s'arrêtaient pas que aux valeurs. Hein, quand tu prends le mot pharmacopée, tu donnes le mot pharmacie, à un moment, il y a un problème. Et la légende, on ne peut pas vraiment parler autrement. La légende dit que quelqu'un aurait été le voir en lui disant, mais écoute, ça va pas, ton mot, pharmacopée, ça peut pas à la fois dire poison et remède. Ça, c'est juste pas possible. Et lui, il dit, si, 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 bien sûr. Dit, si tu mets juste ce qu'il faut, ben, t'as un remède, et puis si tu mets plus que nécessaire, t'as un poison. Donc, il y a tout, en fait, hein. Il y a, c'était un ensemble de choses. Aujourd'hui, en fait, on fragmente les choses pour mieux les faire accepter d'un côté, puis après de l'autre. Mais et c'est bien dommage. C'est bien dommage. Parce que nous y perdons maintenant. Comment on détruit une civilisation, un peuple et une histoire, eh ben on s'attaque à sa langue. Si vous prenez l'Afrique où le français a été imposé, ils ont eu énormément de mal à s'en remettre au niveau de leur civilisation à eux. Si vous prenez celle des Incas ou des Aztèques ou des Indiens d'Amérique, ils ont été réduits à peau de chagrin, mis dans des réserves quand même. Quand on emploie le mot réserve pour des humains, ça, je sais pas, j'ai l'impression que ça choque personne. Mais il y a un moment quand même, il leur a fait beaucoup de mal à ces gens-là. Il faut pas oublier non plus que les Américains, c'était des Européens quand même. D'ailleurs, au titre aujourd'hui de ce qu'on appelle les vagues migratoires incontrôlées, à cette époque-là, c'était les Européens qui ont fait la plus grosse vague migratoire dans le reste du monde. Et ils n'y ont pas été avec des fleurs. Donc, pour le dire autrement, je m'excusais auprès d'un collègue africain la dernière fois pour ce que mes ancêtres avaient fait. Et lui, gentiment, il m'a dit « Non, mais t'as pas à t'excuser. Tu sais, probablement que si on avait été à leur place, on aurait fait pareil. » Donc, vous voyez, on a à apprendre encore de ces gens-là. On est bien arrogant sur beaucoup de choses, je trouve. Et c'est pareil, l'arrogance, c'est un petit peu bizarre comme truc. Parce qu'on refait de l'arrogance si vous êtes dans un tribunal et que vous dites en cherchant à vous défendre, non, j'ai pas fait ça. C'est ce qu'on vous dira. On dira, monsieur, ne soyez pas arrogant. Alors qu'en fait, cette forme d'arrogance, c'est peut-être plus le reflet de la condescendance du juge, qui se place bien au-dessus de vous. Et un problème de position, on a aussi là-dedans. Vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que je peux
Alors,
broder pendant longtemps encore?
Il y a une question de Olifax qui demande du coup, le Vietnam, avec la création d'une langue par les Portugais et les Français, avant ils parlaient chinois, où est-ce que tu places ça, étant donné qu'ils ont gardé leur culture et leur histoire?
Eh bien, écoute, il faudra leur demander parce que je ne suis vraiment pas spécialiste de ce domaine-là. Donc là, j'en dirai rien. Je resterai humble. Je ne sais pas. Je ne dirais pas je ne pense que ceci ou je crois cela. Là, honnêtement, j'en sais rien. Je sais que, par contre, pour certains mots du chinois, notamment, il n'était pas question d'origine. Eux, l'origine des choses, ils n'ont pas ça dans leur langage. Et j'ai demandé à des gens que je connais, qui sont d'origine chinoise, et qui m'ont dit, ouais, effectivement, nous, la question des origines n'a pas de sens. Alors que pour nous, la question des origines, elle est hyper importante. D'ailleurs, depuis les Grecs, puis même bien avant. Non, pour le Vietnam, non, franchement, j'en sais rien. Honnêtement, j'ai jamais été. J'ai connu quelques Vietnamiens, mais j'étais pas dans l'idée de leur poser des questions sur ce qu'ils avaient vécu, ni eux, ni leurs parents, honnêtement. Je sais que au Cambodge, au Vietnam, les Français y étaient, ouais. Ils n'ont pas fait du propre. Ben, à peu près partout où ils sont implantés, de toute façon, ils n'ont pas fait du propre. Mais là encore, c'est pareil. Faut un petit peu voir le truc dans le sens où quand même, la France et ses enfants d'aujourd'hui portent sur leur dos ce que leurs arrière-grands-parents n'ont pas mis volontairement dans leur poche. On leur a pas demandé leur avis à eux d'aller là-bas. La plupart du temps, vous savez, on fait de bons policiers avec de bons anciens fils de paysans qui n'ont plus d'avenir, qui veulent pas travailler à la ferme, qui veulent pas aller travailler dans les caves parce que le métier est trop dur et qui se disent bon ben je vais pouvoir faire militaire, policier, pompier. Voilà. Moi j'en ai beaucoup autour de chez moi. J'habite dans le Gard. Ils font comme ça. Parce qu'ils n'ont pas énormément d'avenir sur leur terre. Et comme je vous dis, le boulot, ils ne veulent plus le faire. Hein. Bosser dans les caves, je ne connais aucun maître des villages alentour qui travaillent dans les caves et qui sont de ces terres-là. C'est peau de chagrin, j'en connais les 1, 2, peut-être 3, je ne suis pas sûr le dernier. Mais ils ne veulent pas le faire, c'est trop dur. Vous voyez, quand par exemple vous avez une cuve de 500 hectos. D'accord? Un hecto, c'est quand même 100 litres. Un mètre cube. Donc, vous avez 500 hectos par cuve. Et qu'on vous dit, alors que la bouteille, elle va être à 12 euros, un truc comme ça, entre 6 et 12 euros, bon, t'es payé 10 euros 775 de l'heure, vous dites, ouais, quand même. Donc, quelque part, ça peut se comprendre par rapport à la dureté, la pénibilité. Il faut voir ce que les mecs respirent dans ce domaine, parce qu'il y a quand même du chlore qu'on utilise sous forme de vinyle, qui n'est pas le même chlore que vous utilisez sous forme de javel, qui a un chlore bien plus augmenté. Je ne sais plus s'il ne tape pas dans les 30 ou 40%, un truc comme ça, alors que celui que vous avez, il est entre 8 et 10%, quelque chose comme ça. Je ne serais pas exact, mais c'est pour donner un ordre d'idée. On n'est pas en zéro, hein, pas méchant non plus. Mais ouais, non, donc du coup, ça c'est ça pour la. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en fin de compte, c'est pas le peuple qui vote la guerre. Quand on vous emmène en Irak, au Tchad, en Yougoslavie, vous voyez bien que. Et alors, c'est pareil, il y a un biais. On prend toujours des jeunes à l'armée. C'est pas parce qu'ils sont plus costauds, plus vigoureux, plus ceci, plus cela. Non. C'est juste parce qu'ils sont plus malléables. On vous dit à un jeune homme qui se pense, tiens, regarde, je te file des pompes, un fusil, vas-y, amuse-toi. L'autre, il ne pense qu'à une chose, c'est à se prouver que c'est un homme, et en sachant absolument pas ce que c'est qu'un homme. D'ailleurs, on ne lui demande pas le savoir, et même on va au-delà de ça. À l'armée, on vous dit réfléchir, c'est déjà désobéir. Donc, faut surtout pas réfléchir quand on vous dit tire, c'est tire. Dès que vous réfléchissez, commence à poser des problèmes. Éventuellement, c'est vrai que, en vraie période de guerre, ça pose problème. Mais sur des conflits qui n'ont pas été souhaités par la population, sur laquelle la population n'a pas été consultée, et qu'on trouve derrière des crimes de guerre, comme par exemple Assange a pu révéler, effectivement, on le sait, il y en a eu, si vous regardez l'Algérie, le retour des Français d'Algérie, c'est une catastrophe, ce truc. Franchement, au départ, ils employaient les bergers avec leurs troupeaux pour faire marcher sur les routes, pour faire le déminage, et puis au bout d'un moment, ils faisaient passer le mec devant le troupeau parce qu'ils s'étaient rendu compte que c'était eux qui minaient eux-mêmes les trucs, puisqu'ils étaient remboursés au prix de la bête qui sautait.
T'es énervé, je me permets, excuse-moi, mais c'est très intéressant, mais est-ce qu'on n'est pas complètement en train de digresser là?
Ah mais on est complètement en train de digresser, complètement. Mais en fait, il faut quand même savoir que eux aussi, on leur a interdit de parler leur langue. Donc, ils ont résisté. D'ailleurs, ils ont même fini par gagner. Ça n'a pas marché. Mais il y a d'autres endroits où ouais, ils ont perdu leur langue, on a perdu leur culture, et ça, c'est grave. Quand je vous disais tout à l'heure que nous pensions que le zéro est d'origine arabique, alors qu'il est hindou, dans le même temps, sur la plaque américaine, il se trouve que le zéro, il est émergent au même moment. À peu près au même moment. On n'est plus à une centaine d'années près. En fait, on retrouve dans l'état d'être inca le zéro. Alors que là, ils ne pouvaient pas se parler. Là, en fait. Donc c'est marrant l'émergence des mots aussi et le besoin, en fait, de nommer des nouveaux objets. Ça, c'est excellent. Ce pouvoir est incroyable chez l'être. Il faut éviter de se faire voler sa langue. On se fait voler sa culture. Ça, c'est vraiment très, 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 très mauvais. Non, on subit franchement des attaques violentes. Là, vous n'avez plus le droit de dire ça, il faut dire autre chose. Quand vous remplissez les papiers, vous vous rendez compte des questions qu'on vous pose. Hein. C'est une catastrophe. Il faut s'en soucier quand même de ça. Non, Mel, tu as autre chose comme question?
Non, a priori, il n'y a plus de questions dans le chat directement posées à ce que tu disais. Vas-y. Okay.
Alors regarde, j'avais préparé une pile de mots avec leur définition. Et je vais vous en envoyer quelques-uns. Comme ça. Ah ouais, j'avais pas mal. Vous voyez? J'ai trouvé aussi, dans le temps des recherches, des mots comme dénigrer. Ah, celui-ci, il est pas mal, je vais vous l'envoyer. Dénigrer. Alors, rendre noir, alors que dénigrer, logiquement, ça voudrait dire retirer le noir. Et là, non. Non, non, c'est passer au noir, donc la réputation d'un individu. On s'efforçant de le mépriser. Et je vous ai collé un lien en dessous. Si vous cliquez dessus, vous allez retrouver sur un outil Google. D'ailleurs, je ne sais pas si vous pouvez cliquer sur ce lien. A
Tu l'as
priori,
mis où?
pas pour...
Dans le salon document? On n'en voit pas de nouveau.
Ouais, regarde.
Ah oui, ok.
Donc, si vous cliquez sur ce lien-là, en fait, vous allez voir l'apparition en diagramme de. Alors, il est génial cet outil. Vous cherchez un mot. Le problème, c'est qu'il remonte qu'au XIe siècle. Là, pas plus loin. Mais vous allez retrouver sa fréquence d'utilisation. Et là, quand vous regardez la fréquence d'utilisation du mot dénigrer, si elle n'est pas en franche hausse, je ne sais pas. Alors, c'est marrant, il y a un pic au 16e. Il faudrait regarder ce qui s'est passé au 16e. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu des vagues d'étrangers qui arrivent. Mais donc cet outil-là, il est sympa. J'ai trouvé pas mal de mots qui étaient référencés là-dedans. Je vais vous en passer quelques-uns. Pouvoir voir, juger de la fréquence d'utilisation de certains que j'avais trouvé.
Effectivement, c'est sympa comme site.
Ouais, hein, c'est pas mal, c'est pratique comme hein, site. Donc ouais, vous avez eu donc mon idée de l'invention. L'invention, c'est concevoir, avoir une idée le premier, hein, quelque chose de nouveau, ayant une utilité pratique, sans concrétisation même. Léonard de Vinci a inventé l'hélicoptère, le parachute, le chardin. Voilà, comme c'est écrit dedans. Et donc, dans réinventer, réinventer, je vais vous le quand vous regardez réinventer, alors celui-ci, vous voyez qu'il est tout neuf. Et utilisé, en fait, à l'ère industrielle. Comme s'ils avaient réinventé là. Et ça me fait penser à l'histoire de la vis d'Archimède. Vous savez, cette vis sans fin qui remonte les choses qu'on met à l'intérieur. En fait, dans les jardins suspendus de Babylone, il semblerait que cette vis ait déjà existé. Et là, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est pareil qu'avec le zéro. Il y a des émergences, en fait, sur des endroits différents. Et alors, pour les mots, c'est magnifique parce que à l'époque, d'ailleurs, pas que industriel ou pré-industriel, mais ça s'est senti surtout là. Vous voyez, les hommes, ils protégeaient vraiment leur boulot. Ils protégeaient tellement leur boulot, d'ailleurs, qu'ils le donnaient qu'à leurs enfants. Hein, en gros, c'était de père en fils. Comme ça. Et donc, oui, parce que les femmes n'étaient pas employées à travailler, donc, et pas par bonté d'âme, parce qu'ils voulaient pas les torturer, mais pour autre chose. Et donc, dans le coup, on se retrouve par exemple avec des trucs comme on va parler du même objet, mais avec plein de mots différents. Comme par exemple, justement, pour parler des mots, bah, des caractères. Alors, on a les caractères d'imprimerie. Nous, on connaît ça sous police d'écriture. Mais il y a aussi donc l'objet du typographe, qui lui est encore pas le même. Et si vous les mettiez tous les trois à table, ceux-là, ils seraient presque battus pour les mots, parce que c'était les leurs de mots. Et pourtant, ils parleraient bien même du même objet, il n'y a pas de doute. Ils en parlent avec des caractéristiques qui venaient de leur métier. Quand il y a eu une refonte un peu de tout ça, parce qu'on s'est rendu compte quand même que laisser les gens cloisonner comme ça travailler, ça aidait pas aux créations, aux inventions. Donc on a dit, ouais, il va falloir qu'ils se parlent, qu'ils fassent comme ci, qu'ils fassent comme ça, qu'ils bossent ensemble. Hein, ça va rajouter de la valeur, justement, de la valeur ajoutée. Il va y avoir plus de création, plus d'invention. On pourra en tirer donc plus de choses, et notamment de bénéfices, bien sûr. Et ben, en fait, ça n'a pas dû très bien se passer au début. Aujourd'hui, on se retrouve avec quand même, comme diraient certains, une polysémie pour le même objet. Et parfois, on parle un petit peu vite comme ça, on se fait un petit peu discuter à table parce qu'on a dit un truc d'une certaine manière et on va vous dire, bah non, faut pas le dire comme ça, faut le dire comme ça. Et en fait, c'est rapport à ça. Bien souvent, vous regarderez que les gens parlent de la même chose, mais de leur position à eux. Et ça me fait penser à la façon dont on perçoit les objets. Si vous regardez un tube, si vous le regardez par la tranche, un tube, en fait, vous voyez un cylindre. Un rond, pardon. Si vous le regardez de côté, hein, vous voyez un rectangle. Et en fait, il faudrait vraiment en faire le tour pour se rendre compte quand même que c'est un cylindre. C'est tubulaire. Et chacun parle un petit peu de son angle à lui, sans jamais essayer de se placer à la place de l'autre. On veut dire simplement, en politique, bon, bah, le mec de droite va se placer à droite pour parler des mecs de gauche, là, et vice-versa. Il va pas essayer de se mettre dans la peau de l'autre en lui posant la question, mais qu'est-ce que tu vis? Pourquoi tu penses que ça? À quoi ça t'amène? Est-ce que tu penses que les anciens, ils avaient l'habitude de dire que le mieux était l'ennemi du bien? Parce que si vous avez besoin de faire mieux, c'est que vous n'avez pas fait bien. Et ça, c'est logique. On comprend. C'est assez facile à comprendre. Donc, ils avaient quand même des bonnes idées sur ce genre de choses-là. En plus, ils aimaient bien discuter, ils kiffaient les jeux de mots. Franchement, bah, faut dire, ils n'avaient pas grand-chose pour s'amuser. Hein. Ils n'avaient pas de tablette graphique, hein. Ils n'avaient pas de téléphone portable, ils n'avaient pas d'internet, pas de Discord. Donc, bon, au bout d'un moment, les jeux de société, ils ont été super importants pour la culture française. Ça a appris énormément de gens à compter, ce que c'était que des valeurs, même ne serait-ce que la map monde. Avec tous les pays, avec les langues, avec un tas de trucs comme ça. Et vous verrez tout à l'heure que le jeu que je vous proposerai, c'est un jeu que je faisais quand j'étais gamin et qui est assez rigolo. Quand je l'ai redécouvert, j'ai trouvé ça assez sympa. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ben, on n'avait plus grand-chose comme mots dans les poches, en fait. On a l'habitude d'utiliser toujours les mêmes. Ils nous conviennent pour ce qu'on fait. Mais c'est pas comme ça qu'on s'enrichit non plus. Et il y a une. Il y a une misère de mots aujourd'hui. Voilà. Il me semble, d'après ce que j'entends dans mon entourage, quand je parle avec les copains, comme ça, ils me disent, ouais, tu te fais des nœuds avec le cerveau, t'as vu, t'emploies des mots, on les comprend pas. Je dis, mais quand tu comprends pas le mot, pourquoi tu me demandes pas, je dis ce que c'est. Mais non, alors. Vaut mieux passer 30 secondes à avoir l'air bête, à poser une question même idiote, que rester tout le reste de sa vie ben, dans la bêtise pour pas avoir posé. Alors, je parle de bêtise, c'est l'absence de connaissance. C'est comme j'avais posé la question sur le canal, peut-on être bête et méchant? Est-ce que c'est possible d'être bête, c'est-à-dire privé de savoir, et en même temps être méchant? Dans le sens où, par exemple, je suis pas au courant, vous avez perdu, je sais pas, votre père ou votre mère hier, et je vous en parle. Il n'y a quand même que deux solutions. Je vous en parle, je le sais pas. Bon, bah, je vous ai fait du mal parce que je vous ai rappelé votre peine. Et là, effectivement, je l'ai fait sans le vouloir, donc c'est de la bêtise, de la méconnaissance. Maintenant, je le sais très bien et je vous en parle. Là, c'est pas de la bêtise, ça peut pas être de la bêtise, donc c'est forcément de la méchanceté, pour le coup. Ah, on avait essayé de me la faire à l'envers, en me disant, ouais, mais est-ce qu'on peut être méchant et bête? Oui, là, à condition de le faire exprès. Mais du coup, tu tombes dans la première catégorie, donc dans celle du méchant. Parce que tu peux jouer les bêtes en étant méchant. Mais être à la fois bête et méchant, comme on disait, ah, regarde-moi celui-ci, il est bête et méchant, ça marche pas. C'est une erreur dans le truc. Un petit peu comme être à droite et à gauche en même temps. Mais en même temps. C'est un peu spécial, quoi. On dirait l'autre, c'est ambigu. Je vous dis que vous êtes ambigu pour vous défendre. Vous n'avez pas été accusé. Ça va pas être facile. Donc oui, cet outil-là, je l'ai trouvé vachement sympa. Parce qu'on voit vraiment la fréquence à partir de quand sont utilisés les mots. Et je peux vous en envoyer d'autres. Il y en a qui sont vraiment excellents. Regardez là-dedans. Ah oui, ça c'est bien. Ça c'est bien. Alors en fait, il y a une question quand même que vous ne m'avez pas posée. Donc, je ne suis pas super étonné. À votre avis, d'où il vient le mot druide? Un druide. Eh ben non, c'est pas français, ça vient du latin. C'est même pas gaulois. C'est même pas gaélique. Ça vient du latin. Donc alors, un prêtre gaulois de l'époque romaine, eh ben on le nomme aujourd'hui, nous, non pas avec un nom. Donc, comment on devrait les appeler? En gaulois. Mais non, avec un mot latin. Vous voyez comment ça s'insinue, en fin de compte, là-dedans? C'est marrant parce que aujourd'hui il est contesté ce mot. Donc, et celui-ci, il faudra aller le regarder sur la fréquence d'utilisation, mais à mon avis, bon, le 15e siècle, ça suffira pas. Alors qu'est-ce qu'il nous reste comme mot dans le gaulois? À votre avis, vous en avez. Est-ce que vous en connaissez, vous, des mots gaulois?
Alors il y avait Olifax qui voulait intervenir en précisant, il dit ça vient du celtique. Tu parlais de quoi, Olifax?
Me permettre de prendre la parole.
Druide,
effectivement, c'est le mot latin, mais lui-même vient du mot celtique.
Ouais. Mais comment se fait-il qu'en fait, il soit passé par le latin pour devenir celtique?
Et c'est juste l'usage des langues, parce que notre langue est basée sur le latin, comme par exemple un glaive, gladius, gladio, qui est le mot gaulois.
Donc je suis d'accord. Ouais, mais moi je trouve quand même que c'est étonnant. Est-ce que tu penses vraiment qu'ils appelaient, avant que les Romains arrivent jusque la Bretagne, est-ce que tu penses qu'ils avaient que des noms romains pour appeler leurs prêtres ou leurs érudits ou... Tu crois pas qu'ils avaient leurs mots à eux, non?
Si, mais je vois pas où tu veux en venir, parce que tu considères que c'est dommage qu'on n'utilise pas ce mot, mais notre langue n'est pas basée sur le celtique. Ça, il faudrait regarder les dialectes, je crois qu'il en reste chez l'Irlandais. D'ailleurs, l'Irlandais lui-même, en fait. D'ailleurs.
C'est pourquoi aussi c'est pas basé sur les Celtiques.
Parce qu'on a été sous domination romaine. Enfin, le territoire a été sous domination romaine et que la langue s'est bâtie sur le latin.
C'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Alors maintenant, je vais t'envoyer une pile de ce qui nous reste, en fait, ce qu'ils nous ont laissé. Juste, tu vas voir, on va pouvoir rigoler.
De ce qu'ils nous ont laissé dans le vocabulaire, on est d'accord.
Ah oui, tu vas voir. Et regarde. Donc, ils nous ont laissé quoi? À l'appel, ils nous ont laissé la boue. D'accord? Ils nous ont laissé la suie, la glaise, la cervoise quand même, c'est sympa ça. Ils nous ont laissé les magouilles aussi. Et les truands. C'est
oui,
sympa
mais
quand même,
le,
comme
le,
sélection.
Oui, mais le problème du gaulois, c'était pas une langue écrite.
Oui, tout à fait, voilà. Ils ont pu s'en emparer facilement.
C'est pas une question de s'en emparer, c'est qu'ils écrivaient pas. C'est pas une question d'en parler, ils avaient une religion qui les poussait à ne pas le faire.
Alors, pour ce qui est des druides, ouais, je suis d'accord.
Non, pour
le. Il y a
pour
quand même
la,
des runes.
Non.
Il reste des runes quand même.
Ils ont des symboles, mais c'est pas quelque chose qu'ils utilisent pour écrire. Oh, excusez-moi, je.
Non, mais tu peux y aller, il n'y a aucun problème. J'ai pas de champ, a priori. Franchement, tu peux y aller. Au contraire, même, fais profiter. Je sais pas, un truc que je domine. Ça, c'est un truc sur lequel je suis tombé au cours des recherches que j'ai faites. Tu vois. Donc, c'est intéressant, justement, c'est d'en parler. Si tu regardes bien, d'ailleurs, le sujet, c'est conversation. Là, vous prenez pas un coup. Je suis pas là pour donner un coup à qui que ce soit. Je suis là pour regarder un petit peu de comment ça se passe, comment on voit ça, nous. Qu'est-ce qu'on a à en dire, nous? Pas moi, mais nous. Donc, tu peux rentrer dans le jeu comme tu veux, et d'ailleurs, même n'importe qui, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire, qu'il le dise.
Hein. Je vois qu'il y a Bento.
Il y a
Bento qui voulait intervenir, ouais.
Ah ouais, vas-y, Bento, je t'en prie.
Alors par contre, Bento, on t'entend pas. Ton micro est activé, mais on t'entend pas.
Ah, t'as été puni, toi. Bon, est-ce que vous savez d'où il vient le mot copain ?
On m'entend maintenant, c'est ça ?
Oui, c'est bon.
Vas-y, vas-y, Bento. Je poserai après la question.
Je t'ai posé une question dans le chat Livre Blanc, en fait, parce que je t'ai entendu dire qu'en gros, on perd le sens des mots, que la langue... j'ai pas réussi à comprendre comment était structurée l'évolution d'une langue dans ton discours. J'ai l'impression d'avoir écouté le truc de « ça va dans le mauvais sens ». Et quand on est, et quand on lit les écrits, ça va toujours dans le mauvais sens. Et donc, en fait, l'exemple que je prenais, c'était le français, par exemple, quand il est mis au pinacle et qu'il est reconnu de manière internationale, c'est surtout en partie parce qu'il est en exportation au détriment d'autres langues. Et donc, en fait, maintenant que tu dis que notre langue change, c'est quoi, du coup, l'évolution au fil du temps d'une langue qui serait, selon toi, une bonne évolution?
Alors, selon moi, une bonne évolution, ce serait d'utiliser des mots qui sont justes, qui décrisent vraiment bien l'objet dont on parle. Et c'est de moins en moins le cas. T'as vu, je te prenais trivialement le truc du travail. Là, c'est gros comme une patate, celui-ci. Mais pour aller dans ton sens, en fait, j'ai pas vraiment de plan réel dessus. Tu vois que quand même, on t'impose plus des restrictions, en fin de compte, de mots que de nouveaux mots. Les nouveaux mots qu'on t'impose, et d'ailleurs, regarde, tu parlais de la langue française qui s'est exportée, hein, la langue de Molière ou de Ronsard, c'est pas celle que nous parlons aujourd'hui. Quand tu dis tonner à quelqu'un en lui tendant quelque chose, c'est le roi de France, c'est le roi d'Angleterre qui jouait avec une balle à travers un filet, t'as vu, et il jouait en se disant tennis, tennis, c'est resté le mot tennis. Voilà, t'appelles le tennis aujourd'hui par la façon dont ils nommaient eux. La plupart du temps, on l'oublie. On sait que saboter, ça vient des sabots. Mais sabotage, c'était que... Ils freinaient les machines. Il y a d'ailleurs des révoltes de paysans où ils balançaient leurs sabots carrément et tout ça. Donc, on parle de sabotage. Tiens, celui-ci, je l'ai en fréquence aussi. Et on voit bien là que pour le coup, c'est pas la même langue que nous parlons aujourd'hui. Ça, on est quand même bien d'accord. Là, regarde, je vais t'envoyer.
Je sais pas. Moi, quand je lis des écrits qui ont deux ou trois siècles, j'ai pas l'impression d'être perdu.
Non, mais j'ai pas dit que tu devais l'être. Tu le comprends encore, ce qu'il y a d'écrit, heureusement. Mais en attendant, tu regardes, ça s'appauvrit. Et là, regarde, je vais t'envoyer la liste, une partie de la liste, parce que j'ai pas réussi à avoir la totalité. Il y a 170 mots qui devraient rentrer donc dans le Larousse 2022. J'en ai touché 85. D'accord ? Bah, tu regardes les mots qui vont rentrer dans le dictionnaire. Et après, tu vas me dire si tu sens pas quelque chose de bizarre. Je vous laisse seul juge de la qualité de ces mots-là. Alors, ils sont sous forme de dictionnaire Python, parce que je voulais regarder si je faisais pas de doublons. Et là, on voit bien apparaître le nombre d'occurrences, puisque c'est un partout. Et pour éviter de les avoir deux fois. Puis c'était pour m'entraîner aussi avec un module pour faire de l'analyse de mots. Puisque pendant que j'ai travaillé sur les mots, j'ai pas franchement travaillé, en fin de compte, sur la qualité des propos que j'allais vous faire. Mais sur tout un tas d'aspects sur lesquels j'avais pas travaillé. Et du coup, ça force l'humilité. Quand tu vois la somme de ta méconnaissance, honnêtement, tu vas avec des petits patins, ce que je suis en train de faire, justement. Parce que sinon, j'en avais plein des...
En rapport avec les mots, là, il y avait une question de Ranchin qui dit « Que penses-tu de l'échelle Dubois-Buise censée mesurer l'étendue du vocabulaire d'une personne et que certaines personnes utilisent ce test pour évaluer à 3000 mots couramment utilisés sur les 50 000 et plus qui sont dans la langue française ? Tu penses que si c'est vrai, est-ce que cela peut signifier une hausse de l'amalgame envers le sens des mots, voire une généralisation des idées au détriment des nuances ?»
Non, moi, je pense que c'est plutôt, ça vise plutôt à faire de l'exclusion. Comme quand on qualifie des gens, on va décider d'avoir que 500 mots dans leur poche, c'est pas pour leur donner de la bagnoute. Quant à cette échelle-là, honnêtement, de toute façon, tu peux pas juger la qualité de l'intelligence de quelqu'un au nombre de mots qu'il a dans ses poches, puisque je dirais trivialement que tu peux avoir l'intelligence de tes 10 doigts. Si tu es un très bon artiste, t'as pas besoin d'avoir 10 000 mots dans ta poche pour faire valoir le fait que tu peux être un très bon Picasso ou un magnifique Mozart. Ou, voilà. Donc, ouais, moi je pense que ça vise plus non pas à mesurer la qualité en fin de compte. En fait, déjà, il faudra commencer à juger de la qualité des mots avant de regarder combien on en a dans les poches. Mais bon, déjà, quand tu regardes pour le dictionnaire, t'en as plusieurs de dictionnaires. Et dans le dictionnaire à peu près commun, on dit il y a à peu près 65 000 ou 68 000 mots dans cet ordre-là. Mais après, t'as d'autres dictionnaires. D'ailleurs, le dictionnaire de l'Académie n'est pas le même dictionnaire que le Larousse.
Mais en fait, là, je viens de lire tes mots qui vont être ajoutés au Larousse. Il y en a plein qui sont déjà utilisés depuis des années, mais en fait, c'est juste que maintenant, ils arrivent dans l'utilisation commune. Tu vois, un délinéarisé, ou un démonétisé, ou un essentialisé. Enfin, l'essentialisme, c'est quelque chose dont parle beaucoup, beaucoup de monde depuis beaucoup, beaucoup de temps. C'est juste que maintenant, ça rentre dans le dialogue, entre guillemets, du PMU.
Ouais.
J'ai pas l'impression que c'est... Enfin, je vois pas une mauvaise direction dans tout ça, mis à part qu'il y a beaucoup de choses qui sont mal... Enfin, on sent qu'il y a des transitions un peu bancales de l'anglais au français, quoi, mais mis à part ça...
D'accord. Et tu trouves pas qu'ils en ont rentré un peu beaucoup qui font partie du domaine du Covid? Tu vois, confinement, tu vois... Saturomètre, ça existe depuis belle durée.
Ouais, mais c'est ce que je te dis, c'est que on arrive au langage commun.
Alors, il y en a qui sont rentrés et il y en a qui existent déjà, mais à laquelle ils vont rajouter une nouvelle occurrence, une nouvelle implémentation. Ils vont rajouter un terme. Tu as vu, tu as la première forme, la deuxième forme, la troisième forme, et tu as la xème forme. Dans certains mots, te dire si tu parles de biologie, d'humain, de tout ce que tu veux, mais attends, je vais essayer de t'en trouver un que j'avais trouvé justement.
Enfin, en termes d'étonnement, je suis moins étonné de trouver déconfinement que de trouver gourgandine dans la joue en 2020, de l'année 2020 du Larousse, quoi. C'est-à-dire que ça suit l'actualité quelque part.
Voilà. Est-ce que le dictionnaire, il est là pour suivre l'actualité?
Bah oui, forcément, c'est lui qui est censé...
Ah bon,
le décalage au fur et à mesure du vocabulaire d'une langue, il se fait en fonction de ton contexte socio-économique. Et donc, en fait, c'est normal que ton vocabulaire évolue en fonction de ta situation.
D'accord. Donc, pour toi, c'est normal?
Pour moi, c'est pas étonnant, en tout cas.
Voilà, non, mais étonnant, normal, c'est pas exactement la même chose.
Enfin, je veux dire, c'est
normal,
je suis pas juste
des choses anormales. Moi, je trouve que quand même, là, ils ont quand même fait fort. Et tu vois, regarde, pour te montrer les diverses formes qu'on peut donner à un mot, tu prends évolution. Parce qu'une révolution, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Hein. C'est par exemple ce que fait une planète autour de son étoile. C'est une révolution. Grosso modo, elle revient à peu près à la même place. D'accord. La révolution, ça vient de roulement, ça vient de qui revient comme les saisons. Voilà. La révolution, c'est ça. Quand on parle de révolution, pour le terme, en fait, que celui-ci, justement, j'avais regardé aussi en fréquent, et donc je vais vous partager le résultat, vous allez voir qu'il n'apparaît pas non plus n'importe quand, mais n'importe quand. C'est marrant d'ailleurs de voir que les fréquences n'apparaissent pas n'importe quand. Mais là, pour l'évolution, c'est excellent. Parce que tu as les changements progressifs et graduels, tu as des êtres, des idées, tu as des théories sur la Terre, tu as sur les mouvements militaires, tu as les philosophies, donc des développements successifs. Tu l'as en médecine, tu l'as en botanique. Donc tu as déjà sept formes au bas mot, hein, parce que j'ai pas été gratté jusqu'au fond du dictionnaire. Mais tu regardes que évolution, il est bien riche. Et il vient de loin, celui-ci aussi. Et d'ailleurs, il dit pas exactement ce qu'il veut dire. Quand tu regardes sa forme grecque, hein, ça vient de douer et de décrire, de dégrossir. T'as du mal à voir l'évolution dans ce truc-là, quoi, quand même. Donc tu vois qu'il y a déjà eu une modification de ce mot.
Oui, mais par exemple, intégrer la définition de Dreyfusard, on est d'accord que quand je te dis Dreyfusard, tu sais de quelle époque on parle. Et pourtant, ça reste un mot aujourd'hui de la langue française. Donc c'est normal que ce mot-là, il soit intégré au dictionnaire dans son époque, et pas avant ni après.
Ah oui, non, mais je suis pas contre qu'on intègre des mots. C'est pas la question. Et la question, c'est de savoir qu'est-ce que tu intègres comme mots. Parce que tu les utilises, ces mots-là. Donc, il faut quand même bien se rendre compte quand même que on les utilise pas, on devrait pas les utiliser n'importe comment. Et surtout, regarde, les mots, là, tu me dis, ils sont utilisés, mais ils sont utilisés par qui, ces mots-là? Là, je t'ai sorti la dictionnaire. Parce que normalement, on sort des mots qui ne sont plus utilisés. Et là, ils rentrent des mots, je ne vois pas qui les utilise. Il y a des encyclopédies de, comment on appelle ça, de mots pour la médecine. Ma mère avait une trentaine de bouquins épais, qui étaient bourrés de mots, il n'y avait que ça dedans. Tu les retrouves. T'en as même pas, si je parle de 0,01% dans le dictionnaire commun, oui, c'est des mots spécifiques à leur métier. Donc, ils ont une classification pour eux et c'était une encyclopédie. Hein. C'est pas juste un dictionnaire. Donc, pareil, t'as vu, t'as le dictionnaire des mots communs, t'as le dictionnaire des synonymes, t'en as plein de dictionnaires comme ça. Ils ont tous des raisons d'exister, il n'y a pas de doute. Mais dans le dictionnaire commun, ce que nous utilisons, normalement, tu devrais trouver les mots que nous utilisons, nous, en commun. Quand je t'invite à boire un coup à la maison, je te fais pas une séance de lien social. Je t'invite à boire un coup. Donc, je vois pas comment on pourrait faire pour parler autrement. Tu vois, ça enlève quand même de la beauté au langage, déjà. C'est pas rien, la beauté. D'ailleurs, comme tu le dis, je sais plus qui le disait tout à l'heure, mais si la langue française était parlée à la cour de Russie, hein, et que c'était un gage de bonne tenue et de haut rang, ben c'est parce que c'était une langue compliquée, d'ailleurs elle l'est restée, c'est une langue compliquée. Le pire, c'est encore à écrire, parce que au niveau vocabulaire, je ne sais pas si c'est extrêmement dur pour les étrangers à apprendre, ben, au niveau écriture, il faut s'accrocher, quoi, parce que même les Français, ils ont dit, d'ailleurs, moi, en premier, hein, voilà, je serais tout à fait honnête avec vous, je suis une purge là-dessus. Mais là quand même, il y a des mots dans le. Alors, vaccinodrome, ça, c'est sympa. Ça prête même à sourire quand même. D'accord. En plus, je vais dire, ça fait quand même. Ça fait bien 2 mois que je les ai, ceux-là. Ouais, ça doit bien faire 2 mois que je les ai. Donc, ça fait déjà un bon moment qu'il y en a, ils ont. Regarde, passif-agressif.
Il y avait une question au TNRV de Paysanne qui posait à l'écrit « Est-ce que les dicos changent plus vite ces dernières années qu'il y a 40 ans, par exemple ?» Est-ce que tu sais ?
Ça, j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Je peux, parce que j'ai regardé justement ce que disait la dernière... Je vais trouver le document. Par contre, c'est un truc qui faisait 2000 mots chargés. Et voilà. J'ai retrouvé un discours d'Adam Kos. Et dedans, ça va probablement répondre une partie de la question. Juste le temps que je te reprenne.
Et tu veux intervenir, Mistake? Je vois qu'il y a ton micro qui est ouvert. Ou alors, non, ça va. Ok, ok.
On laisse les hommes parler ce soir.
Oh bah vas-y, paysanne, si t'avais plaisir, open.
C'est toi, plaisir.
Bah, justement, l'histoire de l'utilisation d'un mot à côté de son sens. Est-ce que tu as d'autres exemples ?
L'utilisation de son mot à côté de son sens, t'entends quoi par là ?
Bon, c'est vrai que c'est pas très clair.
Donne un exemple, s'il te plaît.
Donc, en fait, voilà, c'est cette idée que des mots sont utilisés, mais de manière qui ne correspond pas, en fait, au sens réel du mot.
Au sens principal du mot, en fait. Ouais. Ouais. En fait, tu l'as envoyé, toi, le tableau ?
Un tabouret, c'est un tabou.
Ouais. Ouais, ça, je suis d'accord. Mais bon, ça pour le tabouret, c'est un exemple pour juste dire que, en fait, on pouvait appeler par n'importe quel vocable un objet. Dès l'instant qu'on était convenu de l'appeler comme ça, on pouvait l'appeler comme ça et on voyait bien de quoi on parlait. Maintenant, par contre, quand on a fouillé dans les synonymes, parce que je suis pas tout seul à avoir bossé là-dessus quand même, hein, il y a quatre fois qui m'a aidé. Hein.
Est-ce oui, que tu, en as envoyé... tu m'interdis de faire des choses.
Oui, parce que sinon, on n'en finissait plus de creuser. Sinon, on n'en finissait plus de creuser. Est-ce que tu as envoyé le tableau que tu as fait ?
Non.
Non ? Eh bien, envoie-le dans le... Et là, tu vas en trouver. Tu vas voir que quand tu lis les définitions de certains mots, tu vas te retrouver avec des mots qui ne veulent plus du tout dire, en fait, ce qu'a priori, ils voulaient dire en première forme. Alors, il y en a... En allant loin dans le temps, en fin de compte, tu vas jusqu'à retrouver même l'opposé, en fait, comme dénigrer. Dénigrer, pour les Grecs, c'était retirer du noir. D'ailleurs, pour les Grecs, il y avait deux noirs. Il y a un noir mat et un noir brillant. Alors, aujourd'hui, t'as vu, t'as le noir. C'est pas compliqué. Donc, on a perdu en fait certaines choses et d'un autre côté, on en a gagné. Tu l'as envoyé ? Alors regarde. Voilà, parce que là en fait, il y a un PDF où il y a 9 photos. On va vous les coller dans le. Ah, tu les as fait en forme de lien ? Enfin bon, on va vous sortir 9 tableaux où on a été pioché justement les définitions. Et ça, ben, je vous incite à les lire. Franchement, il y en a. Pas piquer des hannetons, quoi. En plus, je les ai pris comme ça à la volée, hein, en mode, j'ai dit, tiens, regarde, je vais faire une liste de mots, on va aller regarder de quoi ça parle, à quelle époque et ce qu'ils veulent dire aujourd'hui. Il y en a qui sont excellents. Alors, tout à l'heure, je posais la question, est-ce que vous savez d'où il vient le mot copain ?
Coopérer ?
Alors, non. Non, en fait, ça vient de partager le pain. On partage son pain avec un copain, en fait. Alors maintenant, je vous laisse la question à vous les filles. Qu'est-ce que c'est, copine ? Mais ça, c'était pour être... Ça, c'était pour rigoler. C'était comme pour les trucs. Alors, copain, ça vient vraiment de partager le pain. Mon copine, c'est juste la forme féminisée. Mais bon, ouais. Avec les mots, on peut s'amuser aussi, de temps en temps. Tu t'en sors des trucs ?
Il m'a demandé.
En fait, on en avait préparé un tas, mais c'est pas évident, en fin de compte, de se servir à la fois de. À la fois faire un discours qui soit à peu près cohérent. Ça n'a pas été le cas. Et en même temps, de réussir à choper les liens, à télécharger des trucs. Moi, ça fait trois fois que le truc sort. Alors ouais, j'avais réussi à récupérer un discours de Maria Dancos quand elle arrive à l'académie, donc justement pour ce qui est donc au niveau des mots académiques. Et j'ai pas voulu le passer dans l'analyse de mots pour voir exactement ce qu'elle sort. Je l'ai lu comme ça. Et je me suis dit, ouais, est-ce que je peux le reprendre? C'est fou ça que j'arrive pas à vous l'envoyer.